Bonjour à tous. Trois jours après l'attentat contre un professeur de Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines, le ministre de l'Intérieur martèle sa détermination à lutter contre le terrorisme islamiste et les discours de haine. Gérald Darmanin demande au préfet de Seine-Saint-Denis la fermeture de la mosquée de Pantin. Avant l'assassinat de Samuel Paty, la mosquée avait relayé sur Facebook une vidéo virulente contre l'enseignant, mettant en cause son cours sur les caricatures du prophète Mahomet. Le père de l'élève du collège qui l'a tourné est lui toujours en garde à vue. 15 personnes le sont au total ce matin, et notamment des collégiens à qui le terroriste aurait demandé des informations contre de l'argent le jour du meurtre. En parallèle de l'enquête, le recueillement face à la sidération, une marche blanche sera organisée ce soir à Conflans-Sainte-Honorine. Et puis demain, mercredi, Emmanuel Macron va présider l'hommage national au professeur d'histoire décapité. Le lieu choisi est un symbole de l'enseignement, la cour de la Sorbonne à Paris. Le couvre-feu est globalement bien respecté dans les villes concernées, comme à Paris, Montpellier ou Grenoble. Près de 3000 amendes ont été dressées depuis samedi pour 6 fois plus de contrôles. Alors que le nouveau coronavirus progresse encore en France, le nombre de malades du Covid-19 en réanimation dépasse ce matin les 2000. Et puis face à la deuxième vague de la pandémie, certains pays d'Europe optent pour un reconfinement presque total. Ce sera le cas vendredi au Pays de Galles, quand les Irlandais, eux, devront rester à la maison dès demain soir et pour 6 semaines au moins. Seules les écoles et les crèches resteront ouvertes en Irlande. Nous y reviendrons dans le journal de 6h30. Dans une demi-heure également, nous entendrons l'avocat des syndicats de Bridgestone. Le gouvernement français souhaite sauver une partie des emplois de l'entreprise japonaise qui est située dans le Pas-de-Calais. Il propose un plan de sauvegarde pour 460 à 560 emplois sur les 800 que compte le site à Béthune. Le scénario prévoit une restructuration et puis 100 millions d'euros d'investissement pour maintenir la production de pneus sur le site.
Salutations au soleil, ouverture des chakras, cette semaine, LSD se met au yoga.
Sur France Culture, déroulez votre tapis avec Perrine Kervran.
Stage intensif d'une semaine, Bikram ou Kundalini, d'où vient le yoga? Pourquoi a-t-il envahi Instagram et comment peut-il s'appliquer à la vie? Alors namasté et surtout, on respire par le nez.
La série documentaire, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Deux concerts exceptionnels de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec la violoniste Patricia Kopaczynskaya. Les 22 et 30 octobre, à l'Auditorium de Radio France. Laissez-vous emporter par la virtuosité des deux grands concertos pour violon de Béla Bartók et de deux grandes pages pour orchestre, la Symphonie de Franck et la Symphonie Fantastique de Berlioz, sous la direction de Mikko Franck. Réservation, maisondelaradio.fr. Entrée au cœur du concert.
Il est 6h03, vous écoutez toujours France Culture, c'est l'heure du monde vivant de Bruno David. Et vous allez l'entendre, la copie ne vaut pas pour l'original.
Nuremberg, septembre 1934. Le parti nazi met en scène sa sinistre saga à la gloire de son chef. Les symboles flamboient, les références à des légendes germaniques anciennes sont célébrées à l'image de celles qui entourent la tétralogie de Wagner. Tout cela est bien connu. Mais se souvient-on que des animaux ont également été conviés à la construction du mythe aryen? L'auroch, animal noble chez les peuples indo-européens et nord-africains, est un bovidé imposant. 1,80 m au garrot pour les mâles. Avec ses grandes cornes élégamment courbées, il est un sujet de fascination et de prestige. Son ancienneté remonte à au moins 500 000 ans, voire plus. Il a ainsi croisé l'homme d'Ototavel il y a 400 000 ans, puis l'homme de Néandertal jusqu'à son extinction vers 40 000 ans, et notre ancêtre direct, l'homme de Cro-Magnon. Il est d'ailleurs représenté dans les grottes de Lascaux et de Chauvet. Certains d'entre nous l'auront même aperçu dans l'arène d'Astérix en Hispanie, même s'il commençait à se faire rare. Les données génétiques et archéologiques montrent que l'auroch a été domestiqué il y a 10 000 ans. Il est l'espèce souche de tous nos bovins domestiques. Hélas, il a disparu à l'état sauvage et le dernier auroch européen vivant a été vu en 1627 dans une forêt polonaise. Au XXe siècle, on s'est mis en tête de refabriquer un auroch. Tel était le projet dans l'Allemagne des années 1920 des frères Heinz et Lutz Eck, respectivement directeur des parcs zoologiques de Munich et de Berlin. Par une série de croisements génétiques à rebours, il souhaitait ainsi revenir à la forme ancestrale. Il se fondit rapidement dans l'idéologie nazie, obsédé par une pureté germanique et nourrissant le mythe de la force brute des premiers habitants de l'Allemagne qui auraient côtoyé dans les forêts des animaux puissants et dangereux. Le surhomme se devait d'avoir affronté un suranimal. Le roc fut donc utilisé comme symbole par la propagande nazie, ce qui n'était pas pour déplaire aux frères Eck, qui occupaient des postes de responsabilité dans les institutions du Troisième Reich. Ils adhéraient d'ailleurs si bien à cette idéologie qu'ils négligeaient de voir, après 12 années de travail, les écarts persistants entre la forme de leurs nouveaux bovins et celle de véritables aurochs tels que dessinés par plusieurs auteurs du XVIe siècle. Aujourd'hui en Europe, il existe environ 7000 aurochs ainsi bricolés. Mais tout biologiste sait que toute espèce est le fruit de l'histoire. On ne remplace pas une histoire évolutive par des sélections artificielles. En réalité, on recompose. Ainsi, beaucoup critiquent que le nouveau bovin soit appelé auroch. C'est exact, l'auroch a bien disparu et nous avons aujourd'hui un pseudo-auroch. La meilleure des copies ne remplacera jamais un original. C'est vrai en peinture et malheureusement aussi pour l'auroch, à jamais perdu.
Vous écoutez Les Petits Matins de France Culture. Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Réveil culturel, tous les jours de la semaine, dans les petits matins de France Culture, ou quand vous voulez, à l'heure que vous voulez, le jour que vous voulez, en passant par le podcast ou l'écoute en différé, disponible entre autres sur l'application Radio France. Tous les mardis, c'est l'actualité des expos et aujourd'hui on va parler de Man Ray et la mode au musée du Luxembourg à Paris jusqu'au 17 janvier. Man Ray et la mode, c'est aussi Man Ray et la photographie, une parenthèse dans la vie de l'artiste polyvalent. Mais une aventure riche et palpitante, car Man Ray, en expérimentateur inspiré, va inventer un genre, la photo de mode. Catherine Orman, conservateur, historienne de la mode et une des deux commissaires de l'exposition Man Ray et la mode, est mon invitée ce matin. Bonjour Catherine Orman.
Bonjour. Le réveil culturel. Mardi, expo.
Man Ray et la mode, Man Ray et la photographie. Il y a en réalité deux expositions en ce moment à Paris qui mettent en lumière cette parenthèse enchantée dans la carrière de l'artiste. D'abord l'exposition Harper's Bazaar au musée des arts décoratifs consacrée au premier grand magazine de mode new-yorkais, le Harper's Bazaar. Man Ray y a bien sûr toute sa place et partage la vedette avec Richard Avedon. On en a déjà parlé dans le Réveil culturel et il y a l'expo Man Ray et la mode au musée du Luxembourg dont vous êtes une des deux commissaires, Catherine Orman. L'exposition raconte donc d'une manière chronologique les travaux de Man Ray photographe, la photo artistique, la mode et la publicité bien sûr tiennent une grande place. Mais Man Ray a aussi fait des portraits d'artistes célèbres, des reportages pour rendre compte des soirées mondaines parisiennes de l'époque. Peut-être la première question que j'ai envie de vous poser, Catherine Orman, qu'est-ce qui rend reconnaissable une photo de Man Ray ?
Eh bien, paradoxalement, au début, rien. Il s'inspire de tous les styles existants. Il est pour ses photographies mondaines, justement, ce qui va lui permettre de vivre au début à son arrivée à Paris. Il copie le style du baron de Meyer. Enfin, il est tout à fait, il cherche son style. Son style, il va vraiment le trouver plus tard, au tournant des années 30, avec des développements techniques tout à fait extraordinaires et qui sont sa patte, qui sont sa signature, en fait.
Ouais, il est vraiment expérimentateur, là.
Absolument. Et ses expérimentations, on va les voir se développer, notamment avec sa collaboration avec Harper's Bazaar, à partir de 1934 et jusqu'en 1939, parce qu'il va être sous contrat avec ce magazine américain prestigieux. Et là, il va vraiment développer tous les aspects qui font qu'on reconnaît que c'est une photo de Man Ray.
Parce que Man Ray est tout à la fois peintre et réalisateur, cinéaste. Catherine Orman, non, mais parce que ma question, c'est est-ce qu'il va être influencé par la peinture, par le cinématographe pour faire ses photos de mode?
Alors, Man Ray, il faut bien voir que c'est un artiste. Il réclame cette position. Enfin, et tout le propos de cette exposition est justement de montrer que la photographie de mode, dans laquelle il a excellé, parce qu'il a vraiment donné ses lettres de noblesse à ce genre, eh bien, ça va être alimentaire chez lui. Il va considérer ça comme un travail qui n'a pas de prestige, ça l'intéresse pas en fait. Il va être très consciencieux, il va travailler beaucoup, ça va être un technicien hors pair, mais c'est quelqu'un qui ne se revendique pas photographe de mode. Il est artiste avant tout. C'est la raison pour laquelle dans l'exposition du musée du Luxembourg, la première salle fait allusion justement à ce côté dadaïste, surréaliste, où les photos n'ont pas vraiment de rapport avec la mode, mais donnent bien ce qu'est l'esprit Man Ray.
C'est très intéressant cette première partie, parce que il y a aussi l'esprit d'un Américain à Paris dans les années folles.
Hein. Oui,
il y a cette dimension de la fête, avec bien sûr les surréalistes, mais aussi avec les grands artistes de son temps, qui posent sous son objectif. Alors on va pas tous les citer, je vais pas faire du name dropping, James Joyce, Matisse, Gertrude Stein, Jean Cocteau, Coco Chanel, Antoine Artaud, et bien sûr la chanteuse française et modèle Kiki de Montparnasse, on en parlera.
Alors, Kiki de Montparnasse, on peut en parler parce que c'est quand il arrive à Paris, il faut qu'il trouve un gagne-pain. Et son gagne-pain, il va le trouver dans la photographie. Alors, il a une première expérience avec Paul Poiret. Le grand couturier. Il est introduit par Gabriel Buffet-Picabia, mais ça se passe assez mal. C'est un demi-échec dans la mesure où il voulait faire le portrait du couturier. Le couturier n'avait pas le temps, l'a envoyé dans les salons, photographier ses modèles sur des jeunes femmes. Man Ray était très intéressé par les femmes, donc il n'a pas dit non, il l'a fait. Et il a essayé de vendre ses photos à Paul Poiret, mais ça n'a pas fonctionné. Paul Poiret n'en a pas acheté. Il lui a dit de s'adresser au magazine, qu'il pouvait peut-être les vendre au magazine. Il lui a acheté en revanche des rayogrammes. Enfin, ça, c'était une petite chose, c'était un petit geste qu'il a fait.
Des rayogrammes, ça veut dire
des
quoi?
Rayogrammes, bah c'est un procédé tout à fait typique de Man Ray, où on pose les objets directement sur la plaque photographique et on se dispense d'un appareil photo. Donc Man Ray, pour vivre, a commencé à photographier le tout Paris, et notamment Kiki de Montparnasse, qu'il a rencontré très vite et avec laquelle il a eu une liaison. Et Kiki de Montparnasse, c'était quand même l'égérie des années folles. Elle connaissait tous les peintres, elle s'était fait portraiturer par de nombreux artistes. Et il y a dans l'expo une photo absolument admirable de Kiki de profil, avec une toute petite coiffure très serrée, comme le veut l'époque. C'est pas un chapeau cloche, mais c'est comme un bonnet. Elle est de profil, elle a un profil extrêmement acéré, avec une petite bouche noire, comme on voit sur le cinéma muet, le sourcil extrêmement épilé. Et elle est royale, majestueuse, elle est magnifique. En 25, il fait la photo d'une mondaine, qui est la comtesse Étienne de Beaumont, et la photo paraît dans le magazine, et la photo est exactement la même. Il y a la même coiffure, il y a le même maquillage, et ce sont ces femmes-là, ce sont ces aristocrates-là qui donnent le ton. Et ce qu'il y a d'intéressant à voir, et c'est la raison pour laquelle dans l'exposition il y a énormément de magazines, c'est que ce sont les chroniques mondaines qui donnent le ton. Ce ne sont pas les rubriques mode. Les rubriques mode sont illustrées par des petits dessins, par des croquis. La rubrique mondaine présente des photographies. Et ce sont ces photographies de ces femmes célèbres, de ces femmes du tout Paris, et Dieu sait si le tout Paris, entre les deux guerres, est quelque chose de bouillonnant et de passionnant, eh bien ce sont ces femmes-là qui donnent le ton.
Alors oui, vous venez de préciser, et c'est très important, Catherine Orman, Man Ray effectue beaucoup de travaux de commande pour les chroniques mondaines, pour la presse, pour Vogue, pour Vanity Fair, pour Revue, donc il va prendre en photo des comtesses et des duchesses, vous venez de le dire, il va rendre compte effectivement de la vie mondaine à Paris, mais est-ce qu'il met en scène ces photos? Est-ce qu'on peut considérer cette première partie de Man Ray comme Man Ray témoin, avec des photos, je dirais, documentaires?
Oui, Man Ray témoin. Et ces photos de mode, proprement dites, en fait, il va s'initier à la mode au travers des vêtements que portent ces femmes du monde, qui portent de la haute couture, aussi bien par nécessité, parce qu'elles doivent tenir leur rang, que par goût, parce qu'elles aiment les belles choses. Donc Man Ray va s'initier à ce qu'est la couture avec ses femmes. Et puis il va avoir des commandes, il va avoir des commandes de maisons de couture. Et on voit très bien, il y a deux photos qui montrent très bien que la photo de mode est tout à fait balbutiante, elle est archaïque. Au début des années 20, les poses sont figées, statiques. Il y a un petit film aussi, qui n'est pas de Man Ray, mais qui montre que le cinéma lui aussi est balbutiant à cette époque-là. L'image est encore documentaire simplement, il n'y a pas de geste artistique. Ça viendra plus tard.
Et ça viendra avec lui.
Ça viendra avec lui, notamment.
Notamment avec lui, ou c'est vraiment lui qui est à l'origine de cette photo artistique de mode?
Il y en a d'autres. Il y a d'autres qui s'expriment dans un style un tout petit peu différent. Mais Man Ray a cette particularité. C'est que dans cette société où la mode va commencer à prendre une importance très grande, en termes médiatiques notamment, où les couturiers vont passer du statut de fournisseur à celui de personnalité mondaine engagée dans la modernité. Je prends Chanel comme exemple, hein, et ils vont être assez proches. Eh bien, la publicité va se développer. Et c'est l'objet de la seconde partie de l'exposition qui montre que le développement de cette publicité s'intéresse aussi bien à la mode que à tous les produits qui sont liés à la beauté, en fait, à la coiffure, au maquillage,
les accessoires,
aux accessoires. Voilà.
Ils sont d'ailleurs présents dans cette exposition. Mais est-ce que Man Ray a toute la liberté de prendre les photos telles qu'il veut les mettre en scène, telles qu'il les sent?
Oui, justement. Et on fait appel à lui parce qu'il a cette aura d'artiste, parce qu'il est un artiste surréaliste, parce qu'on sait qu'il va avoir une vision provocatrice, novatrice, parce qu'on sait qu'il va faire des recadrages, qu'il va jouer avec l'image, qu'il va, par exemple, l'œil, cette publicité pour mascara cosmétique.
Une photo iconique, voilà. Les larmes de...
Ouais. Absolument, les larmes. Alors, au début, c'est juste quand on voit la photo, elle est plutôt banale. C'est Lydia, une danseuse de music hall sur laquelle il a mis des larmes. Et par recadrage successif, il est arrivé à avoir ses deux yeux en très gros plan pour la publicité Cosmécil. Et après, il a recadré qu'un seul œil et c'est devenu une image tout à fait iconique.
Mais parlons de cette image. Par exemple, le fait que c'est quand même le visage d'une femme plutôt inquiète. Les yeux sont levés au ciel. Ils témoignent d'une inquiétude. Est-ce que c'est une mise en scène de Man Ray?
Oui, absolument. Bien sûr, c'est lui qui a tout.
Est-ce qu'il avait aussi la possibilité de choisir ses modèles?
Oui. Alors, il n'y avait pas de modèle professionnel à cette époque-là. Il s'est servi des femmes de son entourage, il s'est servi... Et d'ailleurs, il y a une chose très amusante, c'est que Man Ray photographiait le modèle d'assez loin. Et il se rapprochait au tirage, ce qui faisait que quand il obtenait un gros plan... Il obtenait un gros plan nettoyé de toutes les scories qu'on peut imaginer parce que c'était devenu imprécis. Par exemple, quand vous voyez le violon d'Ingres de dos, ou quand vous voyez une photo de dos de Kiki, avec on voit la plante des pieds qui est sale au départ, on voit le coussin sur lequel elle pose ses genoux, et finalement en recadrant, en enlevant la tête, il arrive à avoir un symbole de femme, en fait, une évocation de la femme plus que un modèle nu.
Un soir, je faisais une pleine pour tout maillot. J'avais la peau, nul ne pouvait me voir que le ciel noir. La lune soudain vint s'exhiber. J'allais lui dire ta bouche, bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait oh et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu, oh, toute nue, oh, sans cache-truc ni soutien machin. J'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu, oh, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que
distinguette. En 1926, elle aurait pu croiser Man Ray, mais non. Mais non, il y a plein de photos avec Coco Chanel, avec les grands surréalistes de l'époque, dans cette exposition qui a lieu en ce moment et jusqu'au 17 janvier au musée du Luxembourg. Catherine Orman, vous êtes une des deux commissaires de cette exposition, mais spécialiste de la mode, historienne de la mode. C'est aussi une manière de parler de la mode de l'entre-deux-guerres que cette exposition consacrée aux travaux photographiques de Man Ray.
Absolument, parce que c'est une chance d'avoir 20 années de photographie avec, je dirais, trois périodes. La période archaïque, celle du début des années 20, où Man Ray photographie encore les modèles d'une manière très documentaire, comme pour un dépôt de modèles pour protéger les modèles de la copie. Donc très
basique,
voilà, sans effet particulier. Une période, et qui correspond à la période où la mode est droite, courte, flottante, portée sans corset. C'est la mode de la garçonne, cette mode des années 20 qui est assez...
D'ailleurs, c'est assez fou, toutes les robes, même les robes de soirée sont courtes. Oui. Les coupes à la garçonne sont à la mode.
Absolument, et il y a des mannequins de cire qui montrent ça dans l'exposition d'une manière assez parlante. Donc la première partie, c'est assez archaïque. La deuxième partie, je dirais, c'est au tournant des années 30, au moment où la mode devient plus sophistiquée, où elle se rapproche du corps, où les robes se font tailler dans le biais, qui épousent les formes du corps, la femme se fait sculpture. Donc la mode à cette époque-là, au début des années 30 et jusqu'en 35, est inspirée par les statues antiques, et la femme se transforme en une sculpture vivante. Et Man Ray, à ce moment-là, a des cadrages, la photo est très classique. Il cherche une espèce de classicisme, il est apaisé. Ça ne l'empêche pas d'utiliser des solarisations déjà, ou d'utiliser des contrastes enfin, il joue avec l'ombre et la lumière, mais d'une manière très classique. Et à partir de 35, au moment où la mode bascule vers beaucoup plus de fantaisie, où la mode est sous l'emprise d'Elsa Schiaparelli, qui travaille avec les surréalistes, qui propose une mode beaucoup plus fantaisiste, où l'ornement a toute sa place, et bien là, Man Ray, précisément, va travailler pour Harper's Bazaar et développer toutes ces techniques extraordinaires, les superpositions de négatifs, les compositions, recompositions avec deux négatifs à coller ou bien des négatifs qui sont mis ensemble mais décalés.
Les contre-plongées, impressionnantes.
Les contre-plongées, voilà, la vision de l'oiseau ou la vision du ver de terre. Enfin, ça, tous ces aspects-là, il va même utiliser le bellinographe pour sa première publication.
Mais qu'est-ce que le bellinographe?
Bellinographe.
Catherine Orman.
C'est l'ancêtre du fax. C'est une transmission par téléphone qui procurait au final une image qui n'était pas très bien définie.
Mais c'était volontairement.
Mais c'était parfait
voulu.
Pour la mode, parce que tout d'un coup, on devenait plus abstrait. On ne décrivait plus la robe. On donnait l'idée de la robe, on donnait l'idée de la mode. Et ça, c'est très nouveau, c'est très contemporain, c'est toujours très contemporain. On donne une idée de la ligne et c'est extrêmement dynamique. De plus, Man Ray va se retrouver face à Carmel Snow, qui est la rédactrice en chef d'Harper's Bazaar, et d'Alexei Brodovitch, qui est le directeur artistique. Et ces deux personnes-là vont l'encourager sur la voie de l'avant-garde, en fait, à essayer de promouvoir de nouvelles idées, de promouvoir de nouvelles techniques et de toujours mettre en scène les images d'une manière tout à fait novatrice. Et on le voit très bien.
Et des fois troublante, hein.
Troublante.
Il y a les quelques clichés avec le buste, c'est-à-dire par exemple toute cette série avec des bustes maquillés et habillés, on se pose la question, est-ce que c'est un montage photo? Est-ce qu'il s'agit de vrais mannequins ou pas? On reste très longtemps face à ces photos tellement captivantes par leur mystère et par leur côté un peu sombre et dramatique.
Vous avez parfaitement raison, ça c'est un des points clés de l'expo. C'est justement ce jeu avec le surréalisme, c'est-à-dire qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. On va transformer un modèle vivant en sculpture, en buste de couturière, et inversement, on va donner un caractère vivant à un buste. Enfin, c'est très troublant, et c'est extrêmement efficace. Et il va employer ça pour la beauté, notamment pour illustrer des reportages de beauté. Et ces reportages de beauté qui prennent de plus en plus de place dans les magazines, parce que la beauté participe de cette construction des apparences, construction globale, qui intègre la coiffure, le maquillage, les accessoires, qui intègre la gestuelle. Et tout ça, bah, ça se traduit par des images qui sont d'une puissance qu'on a rarement égalée.
D'où l'exposition qui allie aux photos de Man Ray des accessoires, mais aussi les robes de l'époque. Vous avez retrouvé quand même quelques belles pièces de cette époque-là. C'est quand même les années folles, les années 20, oui. Surtout, et puis les années 30.
Oui, ce sont des pièces qui ont été vues par Man Ray. Alors, il y en a deux à l'entrée qui proviennent du patrimoine de Chanel. Une robe de 1927 des années folles, donc brodée, qui a été portée dans une version un tout petit peu différente par une chanteuse de jazz. Une autre en crêpe de soie de 1930 qui a été portée par la vicomtesse de Noailles, une de ses personnalités des années folles. Et puis, il y a la robe de l'an 20 qui a été créée pour l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Celle-ci est tout à fait extraordinaire. Il y a aussi des robes qui illustrent des tendances des années 30. Une robe d'Augusta Bernard, une robe très spectaculaire de Madeleine Vionnet. Et il y a surtout un manteau de Schiaparelli qui est tout à fait étonnant. La ligne est assez classique. Ce manteau appartient au musée de Marseille. La ligne est tout à fait classique. Mais quand vous vous rapprochez, vous voyez que les poches sont ornées de petits boutons qui sont des pétales en porcelaine. Cette porcelaine, les poches sont couvertes de porcelaine, c'est tout à fait hallucinant.
Mais alors pourquoi Man Ray, qui a gagné sa vie en faisant de la photo, et particulièrement de la photo de mode, a-t-il eu un rapport assez distant avec la photo? C'est-à-dire que quand il retourne aux États-Unis durant la guerre et il ne fait pas de photo, quand il revient en France en 1951, il a envie d'être peintre et pas autre chose. Pourquoi il a ce rapport ambigu avec la photo?
Vous venez de le dire, il voulait être artiste et il voulait être peintre avant tout et il voulait être reconnu comme tel. Donc la photo pour lui était alimentaire, ça lui a permis de bien vivre, d'avoir une résidence secondaire et une voiture, chose que les artistes à son époque n'avait pas. Et voilà, il a occulté volontairement cette partie-là de son travail.
Le réveil culturel. Tous les matins de la semaine, tôt à la radio ou quand on veut sur franceculture.fr.
Et aujourd'hui avec Catherine Orman, historienne de la mode et une des deux commissaires de l'exposition Man Ray et la mode, c'est au musée du Luxembourg jusqu'au 17 janvier. Merci infiniment d'être venu ce matin nous en parler.
Merci à vous, et c'est sur réservation.
Ah oui, par les temps qui courent, c'est vrai, c'est bon de le préciser. Cette émission a été préparée avec Corinne Amar et Cyril Marchand, réalisée comme tous les jours par Vincent Bouchard, avec ce matin Jean-Guy Lamège. Bonne journée.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
On disait de Matisse que c'était un bourgeois et que sa peinture jugée décorative n'était pas en mesure de nous remuer les tripes.
La Compagnie des œuvres, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Eh bien, 150 ans après sa naissance et alors qu'une exposition le célèbre au Centre Pompidou à Paris, on se rend compte qu'il était bien au contraire un peintre de l'avant-garde qui cherchait, et comment s'en plaindre, à alléger par l'harmonie de sa vision la vie de ses contemporains.
La Compagnie des œuvres, du lundi au jeudi à 15h sur France Culture et sur l'application Radio France.
Est-ce que vous avez les oreilles assez entraînées pour reconnaître, dans la vie de tous les jours, des alexandrins?
L'expérience, Aurélie Charron.
Ils sont dans la littérature, dans la poésie, mais pas que. Les alexandrins se glissent un peu partout, tout le temps, jusqu'au « attention à la marche en descendant du train » de la RATP.
Célébration de l'alexandrin, exercice d'amour du verre en 12 pieds, le nouveau podcast original de l'expérience sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. L'exécutif français se déclare en guerre contre l'islamisme, multipliant les prises de parole depuis l'assassinat terroriste de l'enseignant Samuel Paty vendredi dernier. 15 personnes sont désormais en garde à vue. Hier soir, le ministre de l'Intérieur demandait la fermeture de la mosquée de Pantin qui avait relayé des messages contre le professeur. L'explication de Gérald Darmanin et la défense de la mosquée dans ce journal. Vous entendrez ensuite le soulagement mêlé au scepticisme d'un représentant des salariés de Bridgestone. L'État pourrait sauver un peu plus de la moitié des salariés de l'usine à Béthune, dans le Pas-de-Calais, mais conditionne son aide à la bonne volonté de la direction japonaise. Et puis, l'Irlande va devenir le premier pays de l'Union européenne à reconfiner face à l'augmentation des cas de Covid-19. L'Irlande, qui laisse toutefois ses écoles ouvertes, nous irons à Dublin. Le ministre de l'Intérieur a donc demandé la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis, 3 jours après l'assassinat du professeur Samuel Paty, non loin de son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Gérald Darmanin souligne en fait que cette mosquée de Pantin a relayé la vidéo qui pointait le cours de l'enseignant sur la liberté d'expression. Il a justifié cette décision hier soir lors du journal de 20h sur TF1.
Le lendemain de cet attentat absolument ignoble, nous allons tirer toutes les conséquences d'associations qui ont pu aider à relayer le message, par exemple, ou à justifier cet acte absolument inqualifiable. Et donc, j'ai demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis de faire fermer la mosquée de Pantin, puisque son dirigeant a relayé le message qui consistait effectivement à dire que ce professeur devait être intimidé, en relayant d'ailleurs l'adresse du collège. L'imam de cette mosquée a, parmi ses enfants déscolarisés dans l'école interdite de la semaine dernière que j'ai fait fermer à Bobigny, où des enfants de 2 à 6 ans portaient le hijab, sans cours de récréation, sans fenêtre, sans professeur. Cette mosquée, aujourd'hui, sera fermée. Et donc, le préfet de Seine-Saint-Denis signe ce soir son interdiction.
Gérald Darmanin, qui a demandé une fermeture de 6 mois, annonce disproportionnée, selon le recteur de la mosquée en question à Pantin, Mohamed Henrich.
Je suis depuis 15 ans sur l'action associative. J'ai évolué, et je suis toujours dans un discours modéré. Et je sais que c'est très difficile de tenir la route tout en restant avec ce discours-là modéré. Moi, ma méthode, c'est d'aller doucement dans plutôt l'évolution que la révolution. Ramener quelqu'un à évoluer avec vous et essayer de travailler ensemble avec plusieurs courants politiques ou plutôt religieux. Et tout le monde peut faire un bout de chemin ensemble.
Des propos recueillis par Olivia Cohen. Notons qu'hier soir, Emmanuel Macron a reçu le Premier ministre irakien. Le président français a souligné la nécessité de poursuivre le combat contre le terrorisme. Emmanuel Macron qui prépare l'hommage national à Samuel Paty. Ce sera demain soir à Paris, dans la cour de la Sorbonne. Et d'ici là, ce soir, une marche blanche est organisée dans les Yvelines à Conflans-Sainte-Honorine. Pendant ce temps, le procès des attentats de janvier 2015, procès à Charlie Hebdo et dans l'hypercacher, ce procès se poursuit à la cour d'assises spéciale de Paris 5 ans après. Hier, le président de la cour a rendu hommage au professeur décapité, mort, a-t-il dit, du seul fait d'avoir transmis à ses élèves la liberté d'expression. Hommage à Samuel Paty repris dans la foulée par les avocats de la défense et les parties civiles. Et puis l'audience a repris son cours avec l'interrogatoire de Metin Karasular, un garagiste turc de Charleroi, soupçonné d'avoir possiblement fourni des armes à Hamedi Koulibaly. Il s'était spontanément rendu à la police en voyant le visage du tueur sur les écrans de télévision. Florence Turm.
Je ne suis pas parfait. Je jouais, je buvais, je trompais ma femme, mais tuer des gens innocents, je ne mange pas de ce pain-là. Carrure massive, accent belge et débit de parole rapide, Metin Karasular jure sur la tombe de sa mère, la tête de ses enfants, rappelle ses origines kurdes, invoque sa proximité avec le PKK qui combat le groupe État islamique, marque sa distance avec les terroristes. Un musulman qui tombe sur une caricature, il doit l'ignorer ou la déchirer. Mais ses déclarations sur le fond restent embrouillées et divergentes. La main sur le cœur, il nie avoir pu vendre une quelconque arme à Hamedi Koulibaly, même si ce dernier est venu venu à plusieurs reprises dans son garage de Charleroi, accompagné d'Ali Riza Polat, cet autre accusé que Metin Karasoular a connu, dit-il, par hasard, un jour où il passait changer un pneu. Il affirme avoir simplement joué les intermédiaires pour 500 euros entre les deux hommes et un grec, la plus grande pourriture que j'ai vue, glisse-t-il au passage, censé racheter la Mini Cooper de Koulibaly. Les versements ne se font pas et le tueur de l'hypercachère revient à plusieurs reprises, chaque fois plus menaçant, à tel point que Metin Karasoular envoie femme et enfant dormir chez son frère. Mais il ne livre aucune explication plausible sur les deux listes d'armes retrouvées dans des sacs poubelles, l'une rédigée de sa main, la seconde écrite par Ali Riza Polat. En face de chaque pistolet, Kalachnikov ou lance-roquette, une indication de prix. La vérité, monsieur le Président, c'est que je ne m'en souviens pas.
Florence Turm, dont vous pouvez retrouver les chroniques judiciaires sur notre site franceculture.fr. La fermeture de l'usine de Bridgestone dans le Pas-de-Calais pourrait être évitée. Et ce, si l'entreprise japonaise se repositionne sur des pneus à forte valeur ajoutée. Et puis, si elle bénéficie de 100 millions d'euros d'investissement dans l'usine, dont une partie pourrait être publique. Voilà en substance ce qu'a dit hier le gouvernement aux syndicats et aux élus qui étaient reçus à Bercy. La direction de Bridgestone Europe aurait même accepté de réfléchir à ce plan, qui prévoit toutefois la suppression de quelques centaines de postes sur les 800 du site. Finalement, ce n'est pas si mal, concède Stéphane Ducrot, l'avocat des syndicats de Bridgestone.
Si on licencie 400 personnes sur 800, c'est un demi-drame. De toute manière, depuis l'origine, on s'est toujours dit qu'il y aurait de la casse sociale. On en a pleine conscience. On travaille sur notamment le sujet du PSE en même temps que les solutions alternatives. Donc on sait qu'il va y avoir de la casse et qu'il pourrait y avoir de la casse. C'est une solution quand même triste, mais jusqu'à jeudi dernier, on était en réunion avec la direction qui nous a toujours dit que le seul scénario possible, c'était la fermeture. Et on a découvert ce matin que peut-être ils seraient prêts à regarder une autre solution que cette fermeture.
Est-ce que ce ne serait pas une façon de gagner du temps aussi pour Bridgestone? Parce que là, ils peuvent dire qu'ils sont d'accord et pendant ce temps-là, ils négocient la fermeture totale. Enfin, est-ce que vous envisagez aussi ce scénario?
C'est notre grosse crainte aujourd'hui, le temps qui passe. Et ça, on a déjà réussi à arracher un mois au tout début de l'annonce de la fermeture, puisque la fermeture était pour le 30 avril. Elle aura lieu que le 2 mai, si fermeture il y a. Ils pourraient nous balader pendant 3 ou 4 mois et nous dire finalement on ne fait pas et on ferme. C'est possible. Maintenant, on essaye, nous, d'utiliser tous les jours possibles pour se battre contre ce projet.
Des propos recueillis hier soir pour France Culture par Marie Viennot. Le nombre de malades du Covid-19 actuellement en réanimation a dépassé les 2000 personnes en France. Un seuil qui n'avait pas été atteint depuis mai, selon les chiffres officiels. Et quand les officiels parlent officiellement de deuxième vague, c'est toute l'Europe ou presque qui durcit ses règles sanitaires. À partir de demain, par exemple, l'Irlande va reconfiner sa population. Il s'agit de faire face à l'explosion des contaminations dans le pays et de protéger un système hospitalier sous-financé. Les explications d'Emeline Vin.
Principale différence avec le confinement de mars dernier, les écoles restent ouvertes. Le futur de nos enfants ne sera pas une énième victime de ce virus, a justifié le Premier ministre Micheál Martin en annonçant le reconfinement. Autre nouveauté par rapport à mars, le concept de bulle sociale. Les personnes isolées auront le droit de s'associer entre guillemets à un autre foyer pour recevoir des visites. Le Premier ministre a également promis que le gouvernement allait investir dans les services de soutien psychologique. Recommandé par le Conseil scientifique depuis une dizaine de jours, ce reconfinement national entre en vigueur mercredi à minuit pour 6 semaines. Aux côtés des autres règles phares de la première vague, fermeture des commerces non essentiels, limitation des déplacements dans un rayon de 5 km, télétravail pour tous. Pour remobiliser des Irlandais lassés des restrictions sanitaires, Micheál Martin a défini un objectif, pouvoir fêter Noël encore plus important cette année.
Émeline Vin pour France Culture. Dans 2 semaines très exactement aura lieu la présidentielle aux États-Unis. Et face au président sortant Donald Trump, le démocrate Joe Biden est toujours en tête dans les sondages. Toutefois, son camp reste prudent, Grégory Phillips.
À 2 semaines de l'élection, le site spécialisé 538 estime à 87% la probabilité d'une victoire de Joe Biden. Mais il y a 4 ans, le même site de référence donnait exactement le même score à Hillary Clinton. Il convient donc de rester extrêmement prudent. Il y a néanmoins une différence importante avec 2016. C'est la stabilité des courbes. Depuis le printemps dernier, Biden a toujours été en tête des intentions de vote, alors qu'il y a 4 ans, la course était irrégulière et les courbes Trump-Clinton s'étaient croisées à 2 reprises. Aujourd'hui, Biden dispose de 9 à 10 points d'avance au niveau national, mais surtout il est devant aussi dans les États clés, Pennsylvanie, Michigan, Wisconsin, ces trois États qui avaient offert la présidence à Trump, même en Floride, 1,4 point d'avance pour le démocrate. Là, on est toutefois dans la marge d'erreur. Face à ces sondages, chaque camp affine sa stratégie. Désormais, Trump évoque parfois en meeting une éventuelle défaite, comme ici vendredi soir en Géorgie. Imaginez que je perde, il faudra peut-être que je quitte le pays. De l'humour sans doute, mais aussi une manière de remobiliser ses troupes. Dans l'équipe Biden, on répète jour après jour aux militants démocrates qu'il ne faut pas considérer la victoire comme acquise et que chaque voix comptera d'ici au 3 novembre.
La météo de ce mardi en France métropolitaine avec un temps agité et un vent fort, notamment sur les côtes atlantiques. Ce matin, comptez 6 degrés à Besançon, 12 à Paris, 17 à Bayonne. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
C'est l'heure de votre journal des idées sur France Culture à 6h40. Jacques, l'assassinat du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty pose la question de la résurgence de l'accusation de blasphème dans nos sociétés modernes et laïques.
Oui, dans un grand entretien avec Jeanne Favressade, conduit par le sociologue Arnaud Esquer et publié en novembre 2019 sur le site AOC, l'anthropologue, connu par ailleurs pour ses enquêtes sur la sorcellerie dans le bocage normand, évoque son nouveau terrain d'étude, le retour de l'accusation de blasphème lors de l'apparition des versets sataniques de Salman Rushdie et presque simultanément de la sortie mouvementée du film de Martin Scorsese, La dernière tentation du Christ. Nous sommes en 1988 et depuis lors, cette accusation s'est installée dans le débat sur la liberté d'expression. Sous une forme nouvelle dont Jeanne Favressade retrace la généalogie, la protestation de sensibilité religieuse blessée. C'est le motif invoqué par les musulmans britanniques qui demandent sans succès l'interdiction des versets sataniques et qui tentent ensuite de faire jouer en faveur de l'islam une loi pénale vieille de 3 siècles punissant le blasphème. La Blasphemy Law est en fait une loi politique protégeant le fondement symbolique de l'unité nationale, l'église établie d'Angleterre, l'anglicanisme en tant qu'il est la confession du souverain. Elle est si peu religieuse, cette loi, souligne l'anthropologue, que les responsables des cultes minoritaires présents sur le territoire britannique ne font aucune objection à son existence. Ils ne demandent jamais ni sa suppression ni son extension à leur propre religion. Au fil de son enquête sur la résurgence de l'accusation de blasphème, Jeanne Favressade est amenée à consulter les archives de l'organisme de l'Église catholique chargé du cinéma à propos de l'interdiction en 1965 du film de Jacques Rivette, La religieuse, tiré du roman de Diderot. Dans ses archives, elle découvre, je cite, un véritable trésor pour qui s'intéresse à la liberté d'expression, des cardinaux, des évêques et divers responsables ecclésiastiques qui parlent sans mystère de leurs intrigues pour obtenir la censure des films qu'ils estiment blasphématoires, notamment en 1985 « Je vous salue Marie » de Godard et enfin en 1988 « La dernière tentation du Christ » de Scorsese. Le film de Rivette obtiendra devant le tribunal administratif la levée de son interdiction, mais c'est à cette occasion que surgit l'argument de la protection de la sensibilité religieuse. Elle est due à l'abbé Pian, présent dans la commission de censure, lequel s'est manié ce qu'on appelle aujourd'hui les éléments de langage au groupe catholique qu'il entend mobiliser. Il conseille de réserver l'emploi du mot blasphème aux conversations entre croyants, du fait qu'il n'a plus aucun sens pour leurs interlocuteurs de la société civile, et à lui substituer l'argument des sensibilités religieuses blessées. Dès lors, commente l'anthropologue, la critique des choses de la religion ou leur réemploi à des fins esthétiques équivaut à enfreindre l'injonction souveraine des sociétés pluralistes, celle du vivre ensemble qui conçoit les êtres humains comme des monades imperméables les uns aux autres, chacun propriétaire de son lot de convictions, lesquelles sont également indiscutables. C'est sur la même logique que deux anthropologues importants de la mouvance américaine anticolonialiste, Sabah Mahmoud et Talal Assad, ont défendu la réaction des opinions musulmanes dans l'affaire des caricatures de Mahomet, mettant en cause l'incapacité des Occidentaux à la comprendre. Sabah Mahmoud refuse qu'on parle de blasphème dans un tel contexte, c'est-à-dire, selon elle, d'un jugement intellectuel énonçant qu'une loi aurait été transgressée, mais d'un sentiment de blessure morale, de la perception que notre être propre, fondé tel qu'il est dans une relation de dépendance envers le prophète, a été bouleversé. Quant à Talal Assad, il met en avant le fait que le blasphème ne serait pas à penser d'abord dans sa relation avec la liberté d'expression, mais dans ce qu'il opère, quelque chose qui cherche à détruire une relation vivante. Curieuse persistance de l'argument des sensibilités religieuses blessées. Jeanne Favret-Saada rappelle que Talal Assad figurait parmi les intellectuels arabes hostiles aux versets sataniques, au contraire de son maître de l'époque, Edward Said, qui soutenait le romancier en toute occasion. Dans l'affaire des caricatures de Mahomet, Talal Assad ni Sabah Mahmoud ne mentionnent le long travail d'une pluralité d'acteurs pour qu'un minuscule incident local se transforme en une affaire de portée internationale. C'est qu'ils sont arrimés à leur thèse que rien ne peut étayer. Le journal danois a publié ces caricatures dans un acte de provocation raciste envers les musulmans immigrés auxquels se serait joint la classe politique danoise, les gouvernements occidentaux et même le pape, au nom de la liberté d'expression et ou de la domination de l'Occident sur la civilisation islamique.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Entendez-vous l'écho s'infiltre dans les réseaux criminels pour suivre le fil de l'argent sale.
Sur France Culture, Tiffaine de Rocchini.
On se penchera sur l'économie du deal dans les cités et sur les multinationales du crime avant de se lancer à la poursuite des banksters, ces gangsters de la banque. Escrocs et truands, prenez garde, l'écho est à vos trousses.
Du sang à l'oseille, entendez-vous l'écho du lundi au vendredi à 14h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Salutations au soleil, ouverture des chakras. Cette semaine, LSD se met au yoga.
Sur France Culture, déroulez votre tapis avec Perrine Kervran.
Stage intensif d'une semaine, Bikram ou Kundalini. D'où vient le yoga? Pourquoi a-t-il envahi Instagram? Et comment peut-il s'appliquer à la vie? Alors namasté et surtout, on respire par le nez.
La série documentaire du lundi au jeudi à 17h sur France Culture et sur l'appli Radio France.
Vous écoutez France Culture, il est 6h46. Bonjour Julie Gacon, c'est l'heure des enjeux internationaux. Est-ce que vous avez récupéré votre invité?
Oui, bonjour Jacques Munier. Oui,
pour parler, voilà, donc c'est parfait, pour parler donc de la Tchétchénie et des nouveaux réseaux de la radicalisation islamique en Tchétchénie donc.
Oui, c'est souvent après des attentats ou des événements violents qu'on se remet à parler de la place des Tchétchènes en Europe. Et il semblerait que l'homme qui a assassiné le professeur d'histoire Samuel Paty vendredi à Conflans-Sainte-Honorine revendique non pas d'avoir grandi dans ce territoire montagneux de la Fédération de Russie, car ce n'est pas le cas, mais d'être né à Moscou et issu de la communauté tchétchène, mot qui revient beaucoup depuis 3 jours, même s'il recouvre des réalités très diverses, nous allons le voir. Depuis les guerres tchétchènes des années 90 et 2000, des groupes djihadistes ont émergé dans cette région du Caucase où le président Ramzan Kadyrov sait très bien instrumentaliser la question religieuse pour mieux asseoir son pouvoir. Bonjour Aude Merlin, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, vous êtes chargée de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de la Russie et du Caucase. Vous êtes membre du CEVIPOL. Comment est-ce qu'on peut qualifier l'islam de Tchétchénie ou les islams, puisque coexistent plusieurs tendances?
Oui, on peut parler effectivement de plusieurs islams et déjà d'un clivage, disons, central qui est le clivage entre un islam officiel et un islam non officiel. C'est-à-dire que la question politique est absolument centrale. Et le chef de la Tchétchénie, Ramzan Kadyrov, utilise la question religieuse comme un instrument politique. Alors on pourrait revenir dans l'histoire, expliquer l'évolution de l'islam et du fait religieux en Tchétchénie. À grands traits, il y a déjà une histoire de résistance au XIXe siècle qui est extrêmement importante et qui se fait sous la bannière de l'islam et l'islam soufi. Donc au XIXe siècle contre la conquête russe et sous la houlette d'un Daghestanais en fait, donc à l'est de la Tchétchénie, qui est l'imam Chamil et qui donc utilise le soufisme pour fédérer les résistants tchétchènes, daghestanais et du Caucase du Nord contre cette conquête russe. À l'époque soviétique, avec la politique donc de sécularisation, d'athéisme militant, l'islam persiste donc en Union soviétique, mais est très contrôlé et très encadré par les services de renseignement et par le pouvoir politique. Et en Tchétchénie, c'est vraiment le soufisme qui continue à être structurant, à la fois par sa pratique intime et également par le fait qu'il peut se combiner justement dans la sphère privée avec le contrôle politique. Et c'est en fait après l'effondrement de l'Union soviétique, au moment de l'ouverture des frontières, que, en quelque sorte, une rencontre, un contact et un certain nombre aussi de chocs et de frictions se font entre cet islam soufi, qui du coup est qualifié de traditionnel, et l'islam de texte, le salafisme, et avec donc une mouvance qui commence à vouloir promouvoir en fait un retour à l'islam des textes. Et en fait, durant les deux guerres de Tchétchénie post-soviétique, l'islam est de plus en plus mobilisé, et notamment au sein du maquis.
Aude Merlin, ces groupes salafistes, est-ce qu'ils ont tous prêté allégeance à l'État islamique? Et quand pour ceux qui l'ont fait?
Non, alors en fait, il y a eu donc durant la première guerre de Tchétchénie entre 94 et 96, donc la mobilisation de cet islam dit wahhabite qui a commencé entre deux guerres en Tchétchénie entre 96 et 99 à prendre une place importante parmi certains segments de la société, notamment d'anciens combattants. Et c'est en fait à partir de la deuxième guerre de Tchétchénie qu'on a eu une survisibilisation au sein de ce maquis de la dominante salafiste. Et c'est seulement en 2007, après l'échec du projet national de libération nationale tchétchène, du projet nationaliste qui était dans sa structure plutôt laïque au départ, c'est après la faillite de ce projet et la défaite de la résistance tchétchène, donc mise à bas par l'armée russe, s'est proclamé un émirat du Caucase, qui est une structure transnationale, supranationale, qui englobe en fait les territoires de différentes républiques du Nord-Caucase et qui se structure en districts, en vilayets, en fait, dans les différentes républiques. Et cet émirat était affilié à Al-Qaïda au début. C'est seulement à partir donc de 2014-2015 que certains chefs de guerre prêtent allégeance à l'État islamique, et puis on voit un départ assez massif des combattants, du réservoir de combattants du Nord-Caucase vers la Syrie, et un assèchement des émirats du Caucase. Donc finalement une bascule d'une affiliation à Al-Qaïda vers une adhésion à l'État islamique.
Il y a donc des Tchétchènes partis combattre en Syrie aux côtés de l'État islamique et d'autres partis combattre aux côtés du régime syrien, envoyés d'ailleurs par Ramzan Kadyrov. Quels sont leurs rapports avec le pouvoir à ces groupes? Comment les autorités tchétchènes, donc le président Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie depuis 2006, en lien étroit avec la Russie, comment elles composent avec ces islams et vice-versa?
Alors, oui, l'envoi d'un bataillon tchétchène, en fait, sous la houlette du ministère de la Défense fédérale russe et donc aux côtés de Bachar al-Assad, en soutien à Bachar al-Assad, en fait, est assez logique d'une certaine façon et cohérent, s'inscrivant dans l'annonce faite par Ramzan Kadyrov, qui est donc loyal au Kremlin. Hein. C'est vraiment la façon dont la guerre, d'une certaine façon, a été résolue par le Kremlin, c'est-à-dire par la mise en place d'un Tchétchène loyal au Kremlin qui donc incarne le retour de la Tchétchénie au sein de la Fédération de Russie et qui donc annule complètement tout projet de séparation, de sécession et tout projet indépendantiste. Alors que donc des individus, et là c'était plus donc sur un plan individuel, des individus rejoignaient Daesh. Donc on voit en fait comment finalement un conflit entre une mouvance d'opposition qui est hostile au Kremlin et à celui qui le représente localement, Ramzan Kadyrov, donc va se battre aux côtés de Daesh, tandis que Kadyrov, lui, pour renouveler son allégeance à Moscou, propose, et il l'avait fait également dans le Donbass, dans l'est de l'Ukraine, en soutien aux séparatistes dits pro-russes, en tout cas anti-Kiev, c'est-à-dire que Kadyrov met au service, mais à disposition de Vladimir Poutine et du Kremlin, des forces tchétchènes qui sont loyales à l'État russe. Alors, on voit aussi que dans sa pratique, Ramzan Kadyrov, puisque l'islam est un instrument de contrôle politique, comme je le disais en introduction, essaie également d'occuper en quelque sorte le terrain idéologique, d'occuper le marché idéologique, et donc mobilise, tout en revendiquant un islam traditionnel et tout en renouvelant donc et répétant le fait qu'il adhère au soufisme et qu'il en est un des héritiers, en même temps, il instaure au sein de la République de Tchétchénie des pratiques extrêmement rigoristes qui vont donc du contrôle vestimentaire en passant par le contrôle de la taille de la barbe. En même temps, il autorise la polygamie et bon, l'alcool et la consommation et l'achat d'alcool sont bannis à certaines heures, etc. Donc en fait, il y a aussi une tentative de la part du chef de la République, Ramzan Kadyrov, de fournir une proposition, de proposer un islam rigoriste dans la société et de l'imposer pour essayer de supplanter en quelque sorte le propos de ceux qui sont dans le maquis et qui contestent cet ordre politique.
Audemerlin, on n'a plus beaucoup de temps et je sais combien il vous importait de parler de la communauté tchétchène qui n'en est pas une car elle est très diverse, disparate. Mais en quelques mots d'abord, Ramzan Kadyrov, il avait quand même lors de l'attentat contre Charlie Hebdo, des centaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées à Grozny, non pas contre l'attentat mais contre le blasphème. Dans quelle mesure Kadyrov avait encouragé ces manifestations et comment a-t-il réagi à l'attentat de Conflans, Sainte-Honorine ?
Là, oui, on retrouve cette même logique, c'est-à-dire que en 2015, Ramzan Kadyrov avait organisé un immense rassemblement qui proclamait « J'aime mon prophète », qui donc était un anti « Je suis Charlie ». En septembre 2020, lorsque les caricatures ont été republiées, le chef de la direction spirituelle des musulmans en Tchétchénie a maudit cette publication des caricatures. Et là, face à cet odieux assassinat, Kadyrov a condamné cet assassinat, mais tout en disant que profaner le prophète était une provocation. Donc on voit en fait comment cette narration se construit par rapport à la question de l'islam.
Merci beaucoup, Audemerlin, d'avoir été avec nous ce matin. J'invite les auditeurs à aller lire vos travaux sur la diaspora tchétchène, très diverse. Encore une fois, vous êtes chargé de cours en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et merci d'avoir accepté cet entretien dans ces conditions. Bonne journée à vous.
Merci.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Et peut-être que je vais vous donner mon humeur du jour. Briser le miroir peut-il aider à lutter contre le terrorisme ? Chaque assassinat ou tentative causée par le terrorisme islamiste incite à chercher des méthodes pour en finir avec ce fléau. Mais hélas, les méthodes, la méthode ultime se fait attendre. Et à chaque fois, on se retrouve place de la République pour pleurer nos morts, depuis ceux de l'école aux arts à Tora à Toulouse jusqu'à Samuel Paty. Pourtant, la sociologie fournit des pistes. Cette discipline permet de comprendre certains des mécanismes qui font que l'on devient terroriste. Et il faut le souligner, comprendre le terrorisme n'a absolument rien à voir avec l'excuser. Comprendre, ça veut dire examiner les logiques à l'œuvre, celles qui transforment un individu en un tueur. Les sociologues ne sont pas des juges, leur rôle n'est pas de juger un crime, mais d'en comprendre les ressorts. Or, il y a une piste que fournit la sociologie qui a été peu explorée. Quelle décision individuelle conduit une personne à devenir terroriste? Je parle de décision individuelle pour insister justement sur la responsabilité de celui qui bascule. Ce n'est évidemment pas à cause de la société qu'on verse dans ce type d'action violente. Les explications systémiques qui incriminent le tout n'expliquent rien. Un sociologue comme Howard Becker nous enseigne qu'un individu devient un terroriste lorsqu'il se lance dans une carrière, le terme évidemment mis entre guillemets, une carrière de terroriste. Ça signifie qu'il va suivre une formation, même s'il se forme lui-même, des objectifs et surtout une rétribution. Mais quelle est la rétribution d'un terroriste islamiste? Alors, elle consiste en des rétributions dans l'au-delà, mais ça c'est une conception religieuse de la chose et seule la religion a le pouvoir de démentir ou de changer ce type de croyance. Mais il y a aussi une autre rétribution symbolique et narcissique, le nom des terroristes devient connu. À l'origine, ils ne sont rien et soudain, tout un pays se met à parler d'eux. Ce sont des ratés, les voilà célèbres. Ils vivaient comme des perdants et soudainement, leurs actes les met à la une de tous les journaux. Et bien, c'est cette logique-là qu'il faudrait casser. À chaque fois que j'entends le patronyme d'un terroriste, je me dis qu'il a fait cela pour ça aussi. Pourquoi ne pas essayer de les abandonner à l'oubli, casser le miroir de leur narcissisme, leur faire comprendre qu'ils n'auront après leur acte ni sépulture physique, ni sépulture mémorielle. Que tout terroriste sache qu'après son acte, son nom sera effacé.
7h-9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et aujourd'hui, nous allons largement revenir sur l'assassinat dont a été victime Samuel Paty suite à l'acte d'un terroriste islamiste. Nous serons en compagnie d'un historien, Michel Vinocq, professeur émérite à Sciences Po. Il publie « Jours anciens » et de Jean-Paul Delahaye, co-rédacteur du rapport Aubin et co-auteur de la Charte de la laïcité, ancien directeur général de l'enseignement secondaire. Nous verrons comment l'école peut faire face à ce type de phénomène et comment on peut enseigner l'histoire dans ces conditions. Il est 7h sur France Culture. Excellent réveil à tous.